Morais live.
Extraordinaire, si je peux dire comme ça.
Avec Dominique Morais.
Radio X.
Et là, je passe la POC à Dan. Merci beaucoup, Antoine, d'être avec nous encore en ce vendredi. Tout va bien de ton côté, Antoine? Tout est beau?
Oui, Antoine.
Oui, parfait, excellent. OK, on roule ça. Dan, les questions, les meilleures questions. Pendant une couple de minutes, on roule ça. Let's go, je passe la POC à Dan.
OK. Salut, Antoine, ça va bien?
Ça va bien, parfait.
OK. Je sais, mais j'avais rien d'ouvrir. Une petite famille de deux filles qui voyagent pas léger. J'ai besoin d'espace. Tu as parlé du CRV et du RAV4. Elle a toujours eu ça, CRV et RAV4, mais là, elle cherche plus gros. Est-ce que la seule option reste le Highlander?
Non, absolument pas. C'est sûr que le Highlander a cet avantage d'une motorisation hybride. Donc, c'est fiable. C'est un véhicule qui coûte pas cher à rouler. Il y a beaucoup d'espace. Mais dans ce créneau-là, il y a énormément d'offres. Et je dirais que la plus belle alternative, c'est probablement le Hyundai Palisade à motorisation hybride qu'on offre cette année. Ça fait un travail vraiment, vraiment exceptionnel. Il y a beaucoup d'espace. C'est bien aménagé. C'est un bon comportement routier. Ça consomme peut-être juste un peu plus qu'un Highlander, mais ça a quand même un peu plus de caractère aussi.
Quel est l'auto accessible la plus excitante à conduire qui donne de l'émotion?
Le Mazda MX-5. Clairement, sans hésiter. Accessoirement, une Subaru BRZ ou une GR86. Mais si on cherche une petite sportive, Mazda MX-5, c'est très, très dur à battre. C'est une des meilleures voitures sport au monde en ce qui me concerne, peu importe le prix.
Est-ce que Honda Odyssey aura un nouveau modèle en 2027?
Il serait temps, mais la réponse, c'est non.
OK.
C'est direct, hein?
Oh oui. Le Wilderness...
Bon, mais, parenthèse de même, ben, regarde, j'en profite. Mais les caravanes, la Dodge Caravan semble avoir été légèrement redessinée. Tandis quoi, du nouveau dessin, ça reste une Dodge Caravan. Mais quand même, au niveau de la compétitivité dans le marché, t'as pas beaucoup de caravanes de ce type-là. Mais tandis quoi, Antoine?
Ben, c'est pas compliqué, là, la Pacifica, en fait, là, t'as la Chrysler Grand Caravane puis la Pacifica.
Oui.
On a remodelé la partie avant, c'est tout. Puis ce qu'on a fait, c'est baisser les prix, s'ajuster pour être un peu plus compétitif dans le marché. C'est encore un bon produit, mais c'est clair que c'est vieillissant. Et puis, Chrysler essaye de se refaire une image avec ce nouveau museau-là. Je pense que l'exercice est raté. Il n'y a personne qui va acheter ça parce que c'est une Chrysler. Les gens vont acheter ça parce que c'est une minivan et que ça fait la job.
C'est tout.
Bang! Voici.
À quel retour de Subaru Canada pour le Crosstrek Wilderness?
Tant qu'il va y avoir des contre-tarifs, on ne l'aura pas. Parce que le Crosstrek Wilderness est fabriqué aux États-Unis comme le Forester Wilderness. Et c'est pour ça qu'on ne l'a pas. On a la Outback Wilderness parce qu'elle est faite au Japon. Mais toutes nos Subaru à nous proviennent du Japon. Alors qu'il y a des Subaru fabriqués aux États-Unis qu'on n'a pas encore. C'est vrai pour le Ascent, c'est pas du temps passant, qui n'est pas offert sur le marché canadien pour cette même raison. Alors c'est pour ça qu'on ne l'a pas.
Si je vais l'acheter au Vermont, mettons, c'est-tu légal? Ouais. Je peux-tu la traverser? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse?
C'est légal. Est-ce que la garantie va suivre? Ça dépend des constructeurs. C'est pas certain. Sauf que ça va te coûter probablement le prix d'un F-150 très bien équipé, là, parce que tu vas la payer en dollars US. Traverser ça ici, payer les taxes dessus, payer la taxe parce que c'est un véhicule d'importation, tout le kit. C'est un véhicule qui va te coûter 75 000 $ rendu dans le cours, ce qui n'a absolument pas de bon sens.
C'est beau.
Ford enlève le 2,7 litres pour mettre le 3 litres dans le F-150. Est-ce que c'est une bonne idée?
Ben, le 2,7 litres, c'est un très, très bon moteur. Alors, si on peut donner quelque chose à Ford, c'est d'avoir réussi à fiabiliser ses moteurs EcoBoost. Le moteur 3 litres l'est tout autant, mais évidemment, on ne l'a pas vu ou on ne l'a pas vendu à si grande échelle que le 2,7. Alors, j'ai hâte de voir ce que ça va donner comme résultat réel. Moi, c'est ça mon point. Oui, c'est une bonne idée dans la mesure où on s'ajuste à ce que font les autres constructeurs, parce que Ram a un 3 litres actuellement dans son Ram 1500. Et GM s'en vient avec des moteurs plus puissants, des moteurs V8 plus puissants dans la nouvelle génération du Silverado. Alors, le 2.7 commençait peut-être à tirer un peu de la patte. Cela étant dit, ça demeure une super mécanique. Et si je devais m'acheter un F-150 demain matin et que j'ai pas 10 000 livres à remorquer, c'est le moteur que je choisirais encore.
On va rester dans le 2.7 parce que quelqu'un qui te demande la différence de fiabilité entre le 2.7 turbo et le V8 de GM.
Ah oui, le 4 cylindres chez GM, c'est pas une bonne idée. C'est un gros moteur, oui. C'est un gros 4 cylindres, grognon, gourmand. J'aime pas son rendement. Et si on cherche une petite mécanique dans un camion pleine grandeur, GM n'est pas là. C'est bien dommage, là, mais Ford a l'avantage d'avoir un bien meilleur moteur avec le F-150 2.7 turbo que le 4 cylindres. Puis, le 4 cylindres 2.7 chez GM consomme plus que le V6 2.7 chez Ford. Il n'a pas le même taux de fiabilité ni le même agrément au niveau du rendement. Donc, on se pose pas la question. L'alternative, par contre, chez GM, c'est d'aller chercher le moteur diesel Duramax 3 litres. Oui, le carburant diesel coûte une fortune, mais ce moteur-là a tellement un bon rendement énergétique et est tellement agréable à rouler que ça peut constituer une bonne alternative. Parce que là, GM, avec les V8 actuels, c'est vrai que ça commence à vieillir tranquillement, là.
Salut Antoine, j'achète un Volkswagen, le concessionnaire me charge un frais de concessionnaire de 780$, puis je paye déjà le frais de préparation. Est-ce que c'est légal?
C'est absolument légal et malheureusement, c'est une pratique de plus en plus répandue. Je calculais tout récemment que les frais de transport, préparation et de concessionnaire sur une Hyundai Venue représentent pratiquement 15% du prix d'achat du véhicule aujourd'hui. Oui, parce qu'on est rendu à du 3 500 de frais qui s'ajoutent à un véhicule de 20 000 $. C'est rendu que ça n'a pas de sens. Vous pouvez, par contre, tenter de ne pas le payer. Parce que le concessionnaire s'essaye, et ça, c'est pas un frais qui est établi par le constructeur, c'est établi par le concessionnaire. Le constructeur va toutefois mettre un plafond maximal de frais de concession autorisés, parce qu'il y en a qui, en fonction de la demande, pourraient dire, bon, ben nous autres, on vous charge 2 000 de frais de concessionnaire. Alors là, le constructeur dit non, il y a un stop à ça. Mais souvent, là, les frais de concessionnaire, ça plafonne à 700-800. Et c'est ce que facturent malheureusement beaucoup de concessionnaires. Tu sais, quand tu t'en vas t'acheter n'importe quel autre objet, on te charge pas de frais administratifs, là. Mais dans l'automobile, c'est rendu comme ça malheureusement. Et c'est condamnable, mais c'est légal dans la mesure où c'est affiché de façon transparente. Si on vous le charge sans vous le dire, là, c'est une autre paire de manches, mais si c'est affiché sur le site web, sur l'étiquette de vitre du véhicule, sur le bon, alors là, ça devient légal, malheureusement.
Là, la prochaine question, je vais la poser. Comment elle vient? Là, je ne sais pas si... En tout cas, bonjour, je viens de faire l'achat d'un Mazda CX-5 2026. Il n'y a plus aucun bouton à l'intérieur. Tout est dans l'écran. Puis je trouve que c'est un irritant. J'ai entendu dire qu'en Europe, on est en train de voter des lois pour que les commandes de chauffage et de radio soient de retour sur des boutons. Que savez-vous sur le sujet?
C'est loin. C'est une légifération qui est loin de passer. Évidemment, bien, les constructeurs, là, comprenaient une chose. L'élimination des boutons dans les véhicules et la maximisation de fonctions dans un écran, ça égale profitabilité pour les constructeurs parce qu'il n'y a rien de moins cher à mettre dans un véhicule qu'un écran. Alors que de développer des boutons physiques puis des commandes mécaniques, ça coûte cher. Alors, c'est pour ça que dans une Tesla, il n'y a rien. Puis c'est pour ça que Mazda a pris cette décision. Mazda, pendant 10 ans, nous a cassé les oreilles à nous dire on a un système de molette rotative sur la console avec un écran qui est non tactile pour que les gens puissent garder les yeux sur la route, puis nanana, puis bon. Et là, du jour au lendemain, ils ont changé leur fusil d'épaule puis sont allés planter un gros écran en plein milieu de la planche de bord du nouveau CX-5. Écran qui provient de chez Toyota, soit dit en passant, on a juste changé l'interface, mais toute la technologie derrière, ça provient de Toyota. Si vous prenez un CX-5 GT avec le groupe d'options de luxe, ben, c'est l'écran d'un Tundra. que vous allez avoir dans ce véhicule-là. Mais c'est un écran, effectivement, dans lequel il y a énormément de fonctions. Il n'y a pas de bouton pour monter le volume de la radio. Moi, je trouve ça condamnable parce que je vous avoue que pour avoir essayé le véhicule, c'est pas nécessairement intuitif, ça demande adaptation. Je trouve pas que Mazda règle le problème qu'on avait dans le passé avec cet écran-là, malheureusement.
Dernière question.
OK. Ouais. Je vais essayer d'en trouver une qui est le fun là, pour. J'aimerais savoir pour un véhicule qui travaille 6 mois par année avec un trailer d'environ 6000 livres en tout temps, est-ce que c'est plus pertinent de prendre un 2500 puisque le travail est soutenu ou bien si je suis correct encore avec le 1500?
Non, à 6000 livres, un 1500, ça peut faire le travail, mais j'irais avec une mécanique qui est capable de faire face à la musique. Parce que d'y aller avec une mécanique trop faible, là, on s'aide pas. Un 3.5 EcoBoost, le 3 litres diesel Duramax chez GM ou le 6.2, ça peut faire un bon travail. Chez Ram, le 6 cylindres Hurricane fait un bon boulot. Le V8 MI est encore là, mais en fait, c'est un peu drôle chez Ram parce qu'on a ramené le MI en disant les gens nous le redemandaient, les gens s'en ennuient. Mais au moment où le V8 MI est revenu sur leur marché, le prix de l'essence est monté à 2$. Et c'est drôle, les gens n'ont pas acheté tant que ça. Fait que, et le 6 cylindres Hurricane chez Ram a prouvé sa fiabilité jusqu'à maintenant. C'est une mécanique qui fait un super travail. Mais évidemment, quand on remorque 6000 livres 6 mois par année, ça prend une suspension conséquente. Alors, ça vaut la peine d'aller chercher, par exemple, si vous choisissez un Chevrolet, de prendre l'ensemble Z71, le FX4 du côté de chez Ford, pour avoir une suspension qui travaille plus efficacement avec une remorque, de prendre le bon rapport de pont pour le différentiel et d'avoir un moteur qui est capable de traîner ça. Parce que si vous prenez, on parlait tantôt du 4 cylindres de chez GM, oui, sur papier, il va remorquer 6000 livres sans problème, mais c'est un moteur que vous ne voulez pas avoir pour travailler. Ce n'est pas une mécanique super impressionnante.
Le dernier commentaire que j'ai, c'est pas une question. En fait, c'est un commentaire. Salut Antoine, ouais. Le guide de l'auto, je l'achète à chaque année, j'y collectionne. Merci. Voilà.
Alors, c'est exceptionnel.
Ben, merci. Et merci à vous, le guide de l'auto. On est à 61 ans d'histoire maintenant. Et puis, je suis encore très fier d'en faire partie parce qu'évidemment, c'est un ouvrage qui est unique. Vous savez que ça n'existe pas ailleurs en Amérique du Nord, un livre comme celui-là. Et puis, c'est encore un des livres les plus vendus au Québec parce que c'est un outil de référence. Et puis, je rappelle aux gens, moi, je me permets de dire ça parce que les gens ne le réalisent peut-être pas. Mais quand vous allez acheter votre guide de l'auto en librairie ou chez Costco ou chez Walmart, remarquez ceci. Un roman, aujourd'hui, ça coûte 30-35 $. Un guide de l'auto de 700 pages en couleur avec 10 auteurs, ça coûte à peine plus cher. À mon avis, c'est un livre qui devrait se vendre 2 fois plus cher.
Ben oui.
Les éditions de l'homme le conservent à un prix plancher.
Oui, je l'ai payé 40$ dans une bibliothèque, une librairie indépendante sur Cartier. Il venait de l'avoir à 40$. Pas cher, là.
Mais essayez de trouver un autre livre avec autant d'auteurs en couleur, avec autant d'images, avec autant de recherches, qui est si peu cher, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Alors, tu sais, il y a ça aussi. On l'achète sans se poser de questions, le guide de l'auto, parce que c'est pas cher, mais parce que c'est un outil de référence pour comparer l'ensemble des véhicules sous une même formule.
Puis même si on n'a pas besoin de char, Antoine. Oui, bien même si on n'a pas besoin de char, Antoine, même si on n'a pas besoin de char, même si on ne magasine pas, tu sais quoi, on se perd, on fantasme, on regarde les voitures de luxe et on apprend, comme tu as dit, énormément d'informations. Puis ça fait de nous des meilleurs consommateurs quand viendra le temps d'acheter. Peut-être dans 6 mois, 1 an, un véhicule. Ton équipe est posée d'ailleurs sur le site guideautoweb.com. Ton équipe au complet, il y a du monde là-dedans. Il n'y a pas juste toi, là. Tu veux-tu saluer du monde en terminant, peut-être, Antoine, tant qu'à ça? Tu veux-tu saluer du monde en onde?
Ben oui, c'est sûr, là, tous les auteurs qui travaillent avec nous autres, à brûle pour point, là, Guillaume Rivard, Marc Lachapelle, Julien Amado, Hugues Gonneau, Louis-Philippe Dubé, on est une méchante gang à écrire dans ce livre-là. Alain Morin, qui fait un retour cette année, que j'ai lu moi-même longtemps, j'aime beaucoup son style d'écriture, je suis content de le revoir avec nous cette année, donc c'est important de saluer toute l'équipe, puis évidemment, c'est pas le travail d'un seul homme, le guide de l'auto, c'est impossible d'écrire un livre comme celui-là, seul. Gérer les photos, les fiches techniques, et si là, ça, là, bon, Nicolas Tardy, qui s'occupe des spécifications techniques dans le livre, c'est un travail de moine que j'ai déjà fait dans le passé pour le savoir. Fait que, bien sûr qu'il y a beaucoup de travail derrière ça, puis il y a une équipe derrière ça.
Bravo. Donc, guide de l'auto en fin de semaine, avec un petit verre de vin, tu lis ça, tu te perds, et ça fait du bien au mental. On prend distance de la politique et on prend distance de l'actualité. Guide de l'auto, let's go. Merci infiniment d'avoir été avec nous ce matin dans l'émission la plus écoutée à Québec. Salut, Antoine. Bye.
Bonne journée. Bye-bye.
Salut, Antoine Joubert. Exceptionnellement avec nous autres. Et Marc sera de retour dans une semaine parce qu'il est en vacances. Mais le guide de l'auto, pour vrai, là, ça sent bon. Je sais pas, c'est le fun. Livre neuf, guide de l'auto. Petit vino dans le salon. Tu sais quoi? Tu ouvres ça au pif. Hein? Buick. C'est drôle. Tu lis ça. Mm-hmm. Tu ouvres ça. Ah, oh, Mercedes. Tu ouvres ça. Ah, oh, la nouvelle Corvette. C'est trippant. 2027, le guide de l'auto. Extraordinaire. Très courte pause.
Juste avant.
Oui.
Henri IV-Sud, c'est problématique vraiment là, à partir de Charest en se rendant jusqu'à la hauteur des travaux. On a eu de longs problèmes sur Charest ce matin. Tout ça semble vouloir rentrer dans l'ordre à la hauteur de Saint-Sacrement. Capitale également, c'est toujours problématique. Capitale, de toute façon, c'est pas un exemple ce matin. Henri Bourassa, très, très lourd. Tu sais, il y a des artères où normalement, on n'a pas de problème. Puis ce matin, c'est chaotique. Et l'accès au centre-ville, ça va quand même assez bien ce matin. Mais pour un vendredi du mois d'août, c'est quand même surprenant. Il n'y a pas de raccourci pour sauver du temps, mais il y a une façon simple pour sauver de l'argent. Combinez vos assurances auto et habitation chez Bel Air Direct et économisez.
Et France-Hélène Duranceau là, vient de faire un gag, parce qu'on adore ça, ici l'humour d'Amorel Live. La CAQ défend son bilan technologique. Alors voilà, c'était le sourire du jour.
Petite pause.
Morel.
On revient dans pas long.
Live.
Hey, hey, hey.
Radio X.